Alors bonsoir tout le monde. On va être dans Hébreux chapitre 1 à partir du verset 4, plus ou moins jusqu'au chapitre 2, le verset 4 ce soir. Et on va regarder avec quelques diapositives avec les textes parce que on va voir qu'on saute pas mal entre des différentes sections de la Bible dans ce passage. C'est un texte très riche en citations de l'Ancien Testament que nous voyons ici. Juste pour rappel, on a vu la semaine passée avec papa, avec Brady, donc le commencement de l'épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 1, les versets 1 à 4, où nous avons vu ces déclarations au sujet de Christ, au sujet du Fils, et comment ce message de Christ était important pour une église qui souffrait, une église qui était dans un contexte, dans une culture où on s'opposait à elle et au message qu'elle partageait. Et donc ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Et ce que nous allons voir ce soir, c'est la suite de cet enseignement de l'Épître qui va commencer à montrer comment, de manière différente, Christ est supérieur et plus grand que tout le reste de ce que Dieu a fait dans le passé et tout le reste de ce qu'il y a dans l'univers. Et donc, je vous invite à lire avec moi donc dans Hébreux chapitre 1. Et je vais commencer au milieu du chapitre 3 parce que c'est là où cette notion de parler des anges, de la
Merci.
supériorité aux anges. Verset 3, donc après avoir accompli, on va dire. Hébreux chapitre 1, verset 3 et suivant. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien différent du leur. Auquel des anges, en effet, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, moi je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Et quand de nouveau il introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Et il dit des anges, il fait de ses anges des vents, et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais au fils, il dit, ton trône, ô Dieu, est éternel, et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint avec une huile d'allégresse, de préférence à tes compagnons. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais toi, tu demeures. Ils vieilliront, tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés comme un vêtement. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront pas. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? C'est pourquoi nous devons prêter une plus vive attention à ce que nous avons entendu, de peur d'aller à la dérive. Car si la parole prononcée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Ce salut, annoncé à l'origine par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles variés, et par des communications du Saint-Esprit, selon sa volonté. Bon, c'est un passage assez long, comme vous avez entendu, mais ceci reflète une seule pensée de la part de l'auteur, un seul argument qu'il est en train de développer au sujet de Christ ou du Fils et des anges. Et c'est intéressant, ce texte a plusieurs traits très intéressants. Et je vais juste allumer ici, parce que je vois pas dans quel slide on se trouve sinon. Ce texte a plusieurs traits très intéressants. On pourrait passer un moment juste à chercher, à lire toutes les références de l'Ancien Testament, tous les psaumes qui sont là, et d'y réfléchir. Et donc, on pourrait passer 8 heures ou 9 heures juste sur ce texte en regardant l'Ancien Testament. On va pas le faire, je vous rassure. Mais de voir comment il s'applique à Christ. On peut poser la question, comment est-ce que l'auteur fait pour interpréter l'Ancien Testament à la lumière de Christ? Et il y a toute une question, même des livres entiers ont été écrits sur comment voir le Christ dans l'Ancien Testament à partir de ces textes, entre autres. On peut poser la question, au sujet aussi des questions textuelles, c'est-à-dire quelle version de l'Ancien Testament est-ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux utilisait, parce que parfois c'est différent de ce qu'on a dans les textes hébreux aujourd'hui. Donc énormément d'informations, énormément de choses utiles, mais j'aimerais qu'on commence avec le message principal de ce que nous avons lu. Comme ça, si tout le reste ne sert à rien, vous avez compris l'essentiel de l'argument qui est là, d'accord? Avant d'aller dans les détails un peu compliqués. Est-ce que vous êtes prêts? Okay. Voilà le message. C'est que Christ est supérieur aux anges. Ça va? Bon, il y a un deuxième message aussi, d'accord? Et c'est « Restons donc fidèles ». D'accord? L'argument 1, Christ est supérieur aux anges à tout ce qu'ils ont, à tout ce qu'ils font, sont et tout ce qu'ils font. Et la deuxième partie, la conclusion et l'application pour nous, c'est que puisque Christ est supérieur aux anges et nous sommes en Christ, il faut rester fidèle à Christ et ne pas abandonner. Et ça, c'est le message de tout ce que nous venons de lire. Et donc, si vous voulez, on peut s'arrêter là. Mais j'aimerais quand même partager quelques autres choses avec vous, si vous le permettez. Vous le permettez?
Oui,
ben c'est bien. Si nous savons que Christ est supérieur aux anges, c'est intéressant de voir comment c'est montré, comment c'est démontré ici. Et cette idée de supériorité, vous savez, c'est un des thèmes fondamentaux de l'Épître aux Hébreux. Le terme, l'expression « meilleur » ou « supérieur » ou « plus grand » est utilisé 13 fois dans l'Épître appliqué à Christ comparé à d'autres choses. Et même en dehors de ce mot « supérieur » ou « plus grand », il y a tout plein de comparaisons qui sont faites pour montrer comment Christ est meilleur ou plus grand. Voici certaines choses que nous voyons comment Christ est meilleur. Dans les versets 1 à 4, ce que nous avons déjà vu, les versets 1 à 3, pardon, c'est que nous avons une meilleure révélation et parole de Dieu en Christ. Nous venons de voir au verset 4 à 14 que Christ est plus grand ou meilleur que les anges et qu'il a reçu, au verset 4, un meilleur nom. Au chapitre 3, Christ est plus grand que Moïse. Au chapitre 6 et 7, Christ est plus grand qu'Aaron et les souverains sacrificateurs de l'ancienne alliance. Au chapitre 8 et 9, nous apprenons qu'il y a un meilleur tabernacle céleste où Christ exerce son ministère. Au chapitre 8 et 9, de nouveau, nous voyons qu'il y a un meilleur sacrifice qui est offert et un meilleur culte qui est rendu à Dieu. Au chapitre 4, nous apprenons qu'il y a un meilleur repos pour le peuple de Dieu en Christ. Au chapitre 8, qu'il y a des meilleures promesses pour le peuple de Dieu en Christ. Au chapitre 7 et suivant, que nous sommes héritiers d'une meilleure alliance et que Christ est le médiateur de cette meilleure alliance. Au chapitre 11, que nous attendons une meilleure patrie que celle qui était offerte. Au chapitre 7 et au chapitre 11, que nous avons une meilleure espérance de la part de Dieu. Au chapitre 12, il y a une meilleure montagne où nous rencontrons Dieu que celle de l'ancienne alliance. Et finalement, qu'il y a un meilleur sang qui parle pour nous et qui est là pour nous au chapitre 9 et au chapitre 12. Et donc sans cesse, on peut pas s'empêcher de le voir lorsque vous écoutez, lorsque vous lisez les Hébreux, tout est meilleur, tout est plus grand en Christ. Et ici, en parlant des anges, c'est vraiment le premier argument de cette séquence de meilleur en Christ qui est pleinement développée. Et donc, il faut comprendre le texte que nous voyons comme un argument parmi d'autres, parmi tous ces autres que nous avons vus, mais qui pourtant est très important. Mais il s'agit en quelque sorte d'une brique parmi d'autres dans la construction de cette maison qu'est l'Épître aux Hébreux, qui veut nous montrer que Christ est supérieur à tout ce qui est venu avant, que Christ est la plénitude de ce que Dieu fait, et Christ aussi c'est le point final, c'est la révélation finale et ultime de Dieu. Et donc, si vous trouvez que parfois, moi ou papa, on se répète dans les prédications, vous pouvez voir que l'auteur aux Hébreux, il nous dépasse, d'accord? Il se répète. À la fin, on dit, on a compris, Christ est meilleur, Christ est supérieur, il est plus grand. Mais ce que je propose, c'est qu'on va juste regarder quelques-uns de ces versets, dans Hébreux 1, à partir du verset 4, au sujet des anges et de Christ, et voir quelques-unes des questions qui peuvent ressortir en les lisant, et essayer de les expliquer avant de parler un peu d'application pour nous. Peut-être le plus difficile, c'est au verset 4, parce que nous lisons que Christ s'est assis à la droite dans la majesté divine, dans les lieux très hauts, et qu'il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien différent du leur. Et une des questions qui revient assez souvent en lisant ça, comment ça que Christ est devenu supérieur aux anges, et pourquoi dit-on qu'il a hérité d'un nom? Et est-ce qu'on pourrait sous-entendre que avant, Christ n'était pas supérieur aux anges. Peut-être qu'il était inférieur ou qu'il était égal, ou puisqu'il a hérité d'un nom supérieur, qu'il n'avait pas un nom supérieur au leur avant. Et donc, il y a cette question, est-ce que ce verset signifie, par exemple, que Jésus était un ange avant, mais qu'il a changé, ou qu'il n'était pas divin? Et parfois, les gens peuvent faire appel à ce verset, isolé, pour dire cela. Et j'aimerais juste vous rassurer un peu, en vous montrant premièrement que ce verset fait partie d'un argument plus large, ici au sujet de Christ et des anges, qui dit l'inverse, d'accord ? Qui dit pas que Christ était inférieur ou égal aux anges, mais plutôt qu'il est complètement différent. Et juste pour vous montrer que c'est pas le but de l'auteur de nous dire que Christ, c'est l'égal aux anges, au verset 2, nous avons déjà vu la dernière fois, mais que Dieu nous a parlé par le Fils, en ces jours qui sont les derniers, il a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui qu'il a fait les mondes. D'accord. C'est par lui qu'il a fait les mondes. Les anges ne sont pas des créateurs. D'accord. Les anges ne sont pas ceux qui participent ou à travers qui les mondes, l'univers a été créé. Mais le Fils, si. D'accord. Et le Fils était le Fils dès le commencement, lorsque le monde est créé. Et ça, c'est la première chose. Donc, au verset 3 aussi, nous apprenons que le Fils est le rayonnement de la gloire et l'expression de l'être de Dieu. Ou parfois on dit l'empreinte de la personne. Mais l'idée qui est là, c'est qu'en regardant le Fils, nous voyons la pleine identité, la pleine personnalité de Dieu lui-même. Et donc, de nouveau, ici ce sont des choses qui étaient le cas avant l'exaltation de Christ, avant son ascension au ciel. Et puis au chapitre 5, les versets 7 et 8, nous lisons « Bien qu'il fût le Fils, il a dû apprendre l'obéissance par ce qu'il a souffert. » Et de nouveau, l'auteur aux Hébreux croyait que Jésus, Christ, était le Fils avant de souffrir. Parce qu'il dit, il était le Fils, mais il a dû souffrir. Donc l'idée qu'il a hérité le nom de Fils ici ne signifie pas qu'il n'était pas Fils de Dieu et qu'il est devenu Fils de Dieu. D'accord? Donc de quoi est-ce qu'il parle? D'accord? S'il n'est pas en train de dire qu'il avait une identité ou un être inférieur aux anges. Bon, ici, c'est l'idée qui va revenir au chapitre 2, verset 9 aussi. C'est que l'auteur aux Hébreux est en train de parler du fait que Christ, le Fils, s'est abaissé au-dessous des anges pour accomplir sa mission avant d'être relevé ou élevé plus haut qu'eux. Au chapitre 2, verset 9, voici ce que nous lisons. « Mais celui qui a été fait pour un peu de temps inférieur aux anges, Jésus, nous le contemplons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a goûté la mort pour tous. » Et donc, ce que nous voyons au verset 4, et de nouveau, si parfois vous parlez avec des gens, il y a cette idée qui ressort, bon, Jésus a reçu un nom meilleur que les anges, ou il a hérité ce nom, il est devenu plus grand. C'est vraiment dans cette idée, pas qu'il a jamais eu cette gloire avant, mais Christ est devenu inférieur aux anges, mais ce n'était pas la fin de l'histoire, n'est-ce pas? En devenant comme un homme, il s'est abaissé en dessous des anges, mais Dieu l'a élevé bien au-dessus d'eux. Et donc, tout ce qu'on va voir dans les versets 5 et 14 qui suivent, nous montre comment en tout point et de toute manière, Christ est supérieur aux anges. Pas juste après sa résurrection. Est-ce que ça va? Je le mentionne parce que ça peut être une question qui revient quand on lit la Bible par nous-mêmes ou avec les autres. L'auteur aux Hébreux va donc faire son argument à partir de l'Ancien Testament. Déjà en parlant de 5 citations, 5 choses que Dieu a dit au Fils qui n'a pas dit aux anges. Au verset 5, il dit « Tu es mon fils ». Au verset 6, que tous les anges de Dieu l'adorent. Verset 8 et 9, il parle du trône éternel. Au verset 10 et 12, il dit « Tu as au commencement fondé la terre ». Et au verset 13, il dit « Assieds-toi à ma droite ». Et chaque fois, il va dire « À quels anges a-t-il dit ceci ?» Ou « Est-ce qu'il a dit ceci ?» Ou « Est-ce qu'il a dit ceci ?» Et puis, on l'entend en train d'appuyer et de dire « Voici des choses dites à Christ qui ne sont pas dites aux anges ». Et si au commencement, donc au verset 1 à 4, nous avons les 7 caractéristiques du Fils, nous avons dans ce passage les 7 citations de l'Ancien Testament au sujet du Christ qui appuie sa supériorité. Et on va regarder très 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 rapidement ces 7 citations, juste pour voir comment ces passages prouvent que le Fils, que Christ est supérieur aux anges. Et on va pas regarder tous les détails, mais il y a certaines choses qu'on risque de ne pas comprendre si on va juste regarder dans l'Ancien Testament. Il y a des choses qui nous semblent un peu bizarres. Le premier, c'est le psaume. Donc, chapitre 2, le verset 7, cette citation. Hop, je vais revenir. Voilà. Cette citation qui dit, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Vous savez, ici, donc l'auteur est en train de dire, Dieu a dit quelque chose à Christ qu'il n'a pas dit aux anges. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et c'est une citation donc du psaume chapitre 2, le verset 7, qui est un psaume royal qui parle des Christ, des messies d'Israël, c'est-à-dire les rois de l'Ancien Testament sur le peuple d'Israël. Et si parfois on pouvait appeler les anges les fils de Dieu, au pluriel, nous voyons ça par exemple dans Job chapitre 1, verset 6, Dieu ne dit jamais à un ange, tu es mon fils. D'accord. Le terme les fils de Dieu parfois, mais Dieu ne s'adresse jamais à un ange comme son fils. Et on pense, en lisant ce texte, et sans doute les chrétiens qui connaissent l'évangile, qui entendent ça, pensent à la parole, aux paroles prononcées au baptême de Jésus, où la voix venant du ciel, la voix de Dieu dit que celui-ci est mon fils bien-aimé, n'est-ce pas? Et il y a ce terme qui est utilisé, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Et probablement ici, plus tard dans l'hébreu, c'est développé de nouveau, mais l'aujourd'hui, c'est toujours en train de parler de cette époque, ce règne qui a commencé avec la glorification de Christ. Il s'est sacrifié, il est mort, mais il a été ressuscité et il s'est assis à la droite du Père. Et de cette manière-là, il est assis sur son trône. Et donc ce passage du psaume chapitre 2 verset 7, qui à l'origine était appliqué au roi d'Israël, avait pris une connotation messianique au premier siècle pour les juifs. Les gens s'attendaient à plus qu'un simple roi comme David ou aux autres, mais à celui qui serait un fils de Dieu, qui aurait ce règne et cette gloire que Dieu allait lui donner. Et cela n'est pas pour les anges. Dieu ne promet jamais un règne aux anges. Et donc voilà le premier élément de supériorité. Christ n'est pas comme les anges parce qu'il règne. Mais dans 2 Samuel, chapitre 7, verset 14, on a le deuxième. Nous voyons ici, « Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. » Est-ce que vous vous souvenez à l'origine de quoi Dieu parlait quand il dit cela? Bon, il parlait de Salomon, d'accord, du fils de David. Dieu a promis par son prophète à David que c'est Salomon qui régnerait, et que Dieu serait pour lui un père, et que lui serait, et qu'il serait pour lui un fils. Mais les Israélites s'étaient rendus compte au fil des années, et en voyant aussi la déception spirituelle des rois, qui venait de la direction des rois, que les promesses que Dieu avait faites à David n'étaient pas épuisées en Salomon. Au contraire, elles étaient plutôt déçues. Et même les prophètes de l'Ancien Testament, après Salomon, vont commencer à parler du Messie promis, du roi qui devait venir comme le fils de David, qui, strictement parlant, le fils de David, c'est Salomon, mais qu'il y avait un autre fils de David qui allait venir, qui serait aussi le fils, appelé le fils de Dieu. Et ce passage dans 2 Samuel 7, 14, était donc appliqué au Messie promis. C'est intéressant, lorsque les archéologues ont retrouvé les rouleaux de la mer morte, ils ont trouvé un fragment qui cite ce passage, où il y a 2 Samuel 7, 14, « Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. » Et ils disent, et celui-là, c'est le rejeton de David. C'est-à-dire, c'est le Messie qui doit venir. Et de nouveau, tout ce que l'auteur aux Hébreux essaie de montrer ici, c'est que Dieu parle et a une relation avec le Fils qui est tout à fait différente de celle des anges. Dieu ne traite pas les anges de la même manière qu'il a traité Jésus-Christ. Bon, la suite au psaume 97, verset 7, que tous les anges de Dieu l'adorent. Et là, c'est un passage un peu plus intéressant parce que l'auteur cite la traduction grecque de l'Ancien Testament. Si vous regardez dans vos Bibles qui sont basées sur le texte hébreu masorétique, donc beaucoup plus tardif aussi, on dit que tous les astres ou que tous les idoles, que tous les dieux l'adorent, il y a différentes expressions. Mais pour la traduction grecque, on disait que tous les anges l'adorent. Et qu'est-ce qui se passe ici? Bon, c'est ce rappel que Christ est supérieur parce qu'il est l'objet de louanges des anges. Il est celui que les anges adorent. Et ce texte donc est appliqué à Christ parce que nous pouvons penser à des fois où les anges sont montrés en train d'adorer Dieu, n'est-ce pas? Dans Apocalypse chapitre 5, verset 14, l'agneau qui a été immolé, qui a été sacrifié, arrive devant le trône et tous les êtres célestes, tous les êtres spirituels, les anges, se prosternent devant lui et lui rendent gloire et honneur. Et dans Philippiens chapitre 2, versets 9 et 11, voici ce que nous lisons. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et ici, toute langue, c'est pas juste tous les êtres humains, n'est-ce pas? C'est toute langue dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est-à-dire, les anges aussi sont ceux qui adorent et qui donnent louange à Christ depuis son ascension. Et donc, dans le psaume 97 et puis Deutéronome 32 aussi, nous avons les anges qui l'adorent. Et ici, c'est appliqué à Christ. Fait intéressant, si vous allez lire dans le texte d'origine, on parle de Yahvé. D'accord? On dit que tous les anges adorent Yahvé. Et ici, l'auteur l'applique sans hésiter à Jésus-Christ lui-même. Et de nouveau, cela appuie le fait que dans le Nouveau Testament et dans l'Épître aux Hébreux en particulier, Christ n'est pas compris comme un ange. D'accord? Ou comme un être spirituel. Il est vu comme Dieu. Et on peut appliquer les textes qui parlaient de Yahvé à Christ lui-même. Bon, psaume 104, verset 4. Il a fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Et ici, juste deux idées qui sortent. Si on a parlé de toutes les choses extraordinaires du Fils. Il est celui qui reçoit le règne. Il est celui qui reçoit l'adoration des anges. Il est celui qui a une relation spéciale avec Dieu le Père. Bon, qu'en est-il des anges? Ce sont des serviteurs, okay, et ils sont décrits comme des vents et comme des flammes. Et ici, il y a un jeu aussi sur l'idée, les flammes et le vent, c'est des choses qui sont éphémères. C'est des choses qui ne durent pas. Parce que regardez la prochaine citation qui est du psaume 45, 7 à 8, qui dit « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'as oint avec une huile d'allégresse, de préférence à tes compagnons. » Si les anges sont des serviteurs, c'est une flamme, c'est un vent qui passe. Bon, le trône du Messie, c'est un trône éternel. Et le psaume 45, c'était un psaume qui célébrait un mariage royal. On décrit comment le roi est beau, comment il nous rappelle de Dieu. Mais le psalmiste a fait quelque chose de vraiment bizarre. Et c'est qu'il parle à un moment donné au roi comme s'il était Dieu. D'accord? Il dit au roi que... c'est ici au verset, toujours au verset 8, « C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint avec une huile d'allégresse. » Et le premier « ô Dieu », c'est le roi, et « ton Dieu t'a oint », c'est Yahvé. Et c'est un passage très problématique pour les Israélites dans l'Ancien Testament. Et vraiment, ils se prononçaient pas trop dessus. C'était juste une de ces choses où ils disaient « Oui, bon, le roi, il représente Yahvé, il représente Dieu pour le peuple. » Mais avec la venue de Christ, les choses deviennent plus claires. On peut parler du Messie comme Dieu parce qu'il est Dieu fait homme. Et c'est Dieu qui reçoit de Dieu, Dieu fait homme qui reçoit de Dieu l'onction messianique qui est donnée. Soulignons que par cette citation, l'auteur des Hébreux veut différencier Christ des anges en identifiant Christ à Dieu. Pour une deuxième fois, ce qui se dit de Dieu se dit aussi de Christ. Il est appelé ô Dieu, ton Dieu. Vous voyez ce qui se passe là? Et cela, on ne peut pas le faire des anges. Bon, on avance au psaume, la prochaine citation, c'est du psaume 102, les versets 26 et jusqu'à 28. Et on lit « Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains, ils périront, mais toi, tu demeures. » Et il continue ici, de nouveau avec cette idée de ce qui continue contre ce qui est éphémère. Ce qui est surprenant pour nous ici, c'est que l'auteur des Hébreux, il dit, c'est Dieu qui parle au Messie, au Christ. Et il dit, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Bon, nous savons que c'est à travers Christ que Dieu a créé les mondes, n'est-ce pas? Ça, c'est Hébreux, chapitre 1, les versets 1 à 4. Ça, c'est une des choses qui est dite. Mais ce qui est curieux, si vous allez lire dans votre Ancien Testament, ici, c'est une prière qui s'adresse à Dieu, d'accord? Qui s'adresse pas au Messie. Et donc, de nouveau, qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que c'est vraiment un argument qui montre que le Christ est supérieur aux anges, que c'est lui qui a participé à la création? Et cela ne semble pas correspondre. On dirait presque qu'il triche. D'accord? Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde dans la traduction grecque, de nouveau, de ce psaume, de l'Ancien Testament, donc qui date du 2e, 3e siècle avant Jésus-Christ, c'est que, au verset 23, il y a un changement de sujet. Donc les versets 1 jusqu'au verset 22, c'est le fidèle, l'israélite qui prie à Dieu. Et au verset 23 jusqu'à la fin, c'est Dieu qui répond à quelqu'un, qui commence à s'adresser à quelqu'un. Et là, dans la version grecque, c'est Dieu qui dit « Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. » Et de nouveau, c'est un de ces passages curieux que les Israélites ne pouvaient pas vraiment expliquer. D'accord? Pourquoi est-ce que Dieu parle à quelqu'un en disant « Toi, Seigneur, tu as fondé la terre ?» À qui est-ce que Dieu peut appeler Seigneur? À qui est-ce que Dieu peut dire, toi, tu as fondé la terre, toi, tu as créé? Bon, l'auteur aux Hébreux, il sait la réponse, n'est-ce pas? Et il veut le rappeler, le partager avec ses chrétiens. Parce que le Seigneur, c'est Jésus-Christ, le Fils. Ou le Logos, la parole faite chair qui était là avant la création du monde. Et c'est lui, le Seigneur. Dieu ne peut pas être en train de parler aux anges lorsqu'il dit cela. Et donc, une fois de plus, nous voyons comment Christ est identifié à Dieu. Il partage cette nature, il partage cette dignité de Dieu et ce travail dans la création. Et cela, c'est beaucoup plus que simplement l'ascension de Christ. Vous voyez, c'est son activité dans la création, avant la création, dans toute l'histoire qui est là. Et puis, finalement, bon, on va sauter ça, mais au psaume 110, le verset 1, nous avons de nouveau cette citation, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Ça, c'est le même psaume que Jésus cite en disant, « C'est mon Seigneur qui dit, le Seigneur dit à mon Seigneur. » En posant la question, « Bon, qui est le Seigneur de David, si c'est son descendant ?» Ce texte, ce psaume, presque plus que tous les autres, appliqué à Christ dans la prédication des apôtres. Mais de nouveau, il faut rappeler dans cette question sur les anges, quelle est la différence entre Christ et les anges. Bon, Christ, il va s'asseoir à la droite du Père dans les lieux célestes pour régner. On s'assied à la droite du trône pour régner. Mais vous savez quelle est la position des anges dans le ciel? Bon, l'ange Gabriel, dans Luc chapitre 1, verset 19, il parle à Zacharie, il dit à Zacharie, « Je suis Gabriel qui se tient debout devant le trône de Dieu. » Et les anges sont des serviteurs. Les anges sont ceux qui se tiennent debout devant le trône parce que ce sont les serviteurs prêts à agir, prêts à travailler à n'importe quel moment. Mais le Fils, lui, n'est pas debout, prêt à servir, il est assis en train de régner. Et de nouveau, il y a cette différence fondamentale entre le Fils qui s'assied pour régner et l'ange qui est le serviteur qui se tient debout. Vous voyez la différence qui est là. Christ, bien entendu, a servi. Ça, c'est un des messages fondamentaux de l'évangile. Mais il faut comprendre, il n'a pas servi parce qu'il est serviteur par nature, comme un ange. Il a servi malgré le fait qu'il est celui qui mérite d'être assis à la droite du Père. Il a servi malgré le fait qu'il est celui qui doit recevoir le service. Si Jésus n'était qu'un ange, ou même qu'un archange, ce ne serait pas remarquable qu'il vienne servir dans le monde. Pas remarquable du tout, parce que c'est cela pourquoi les anges existent. Mais s'il partage la nature de Dieu et du Père, et il vient pour servir, alors là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Et donc, voilà les 7 citations assez rapidement que nous voyons. Et sans cesse, nous voyons Christ, le Fils, est supérieur aux anges, en recevant l'adoration de leur part, en étant celui qui crée le monde, qui est appelé Seigneur et Dieu par Dieu lui-même, en étant celui qui est assis à la droite du Père dans l'autorité. Et donc, pourquoi passer tout ce temps à parler des anges? C'est une question légitime. Une des raisons, c'est peut-être qu'au premier siècle, les chrétiens qui sont là sont tentés par ce qu'on appelait le culte des anges. Nous savons que pour l'église à Colosse, il y avait des gens qui parlaient de ça. Dans Colossiens 2, 18, nous lisons que personne sous prétexte d'humilité et d'un culte des anges ne vous conteste à son gré le prix de la course. Un tel homme s'abandonne à des visions, il est enflé d'un vain orgueil ou de ses pensées charnelles. Et donc peut-être que certains chrétiens étaient tentés par un espèce de mysticisme où on vénérait, où on rendait un culte ou des prières aux anges. Et puis ici, il y a un espèce de rappel à l'ordre. On va commencer en soulignant, Christ n'est pas comme les anges, et il faut pas faire d'amalgame, il faut pas les mélanger. Donc ça, c'est une possibilité. Une deuxième possibilité, nous savons qu'il y avait une pensée qui existait à Alexandrie, le philosophe juif qui était contemporain des Hébreux, Philon, il parle du Logos, de la parole de Dieu, comme étant un ange. Il y a une citation où il dit « Le Logos, le premier-né, l'aîné des anges, le grand archange. » Et peut-être ce que nous avons ici, c'est une réponse à cette manière de penser au sujet de la parole de Dieu, qui était appelée l'archange ou l'ange de Dieu. Et peut-être l'auteur veut nous rappeler que cette idée est fausse. D'accord ? Que le Logos, ça c'est Jean chapitre 1, la parole s'est faite chair, n'est pas un ange, mais elle est Dieu. Et donc ici, Il y a une prise de position par rapport à cet enseignement qui est faux. La troisième possibilité, c'est simplement qu'on est en train de parler ici de la supériorité de Christ sur tout ce qui est venu avant dans l'Ancien Testament. Et vous savez, les anges représentaient la loi de l'Ancien Testament. Dans Hébreux 2, donc la fin de notre passage, les versets 2 à 3, nous lisons « La parole prononcée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, en parlant de la loi de l'Ancien Testament, de la parole des prophètes et des anges. C'est la même chose dans Actes chapitre 7, verset 53. Étienne dit au Sanhédrin, vous avez reçu la loi sur l'ordre des anges et vous ne l'avez pas gardée. Okay. Et puis dans Galates chapitre 3, verset 19, de nouveau en parlant de la loi, Paul dit, elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Et donc, dans le Nouveau Testament, de plusieurs auteurs différents, il y a cette idée qui revient sans cesse, la loi de Dieu est amenée par des anges. Et donc, peut-être tout ce que fait l'auteur aux Hébreux, il part des anges pour dire, les anges, c'est la loi. Mais Christ, c'est l'évangile et la parole de vie. Et si les anges sont inférieurs à Christ, et si Christ est supérieur aux anges, alors la parole de Christ est supérieure à la parole des anges. Et peut-être c'est simplement ça, peut-être que les autres choses... Mais ça, on peut être certain que ça fait partie du message. Okay. Bon, vous avez été très patient. Qu'est-ce que ça change pour nous? Bon, premièrement, c'est l'appel à la fidélité. Relisez l'Ancien Testament et regardez ce qui se passe à ceux qui ont été infidèles à l'alliance de l'Ancien Testament. C'est des choses terribles. Bon, un des avertissements, et ce n'est ici pas un encouragement, mais c'est un avertissement dans l'Épître aux Hébreux, c'est ceci, on lit dans Hébreux 12, verset 25. Si ceux qui repoussèrent celui qui sur la terre les avertissait, s'ils n'ont pas échappé au châtiment, à bien plus de fortes raisons, ne pourrons-nous y échapper nous-mêmes si nous nous détournons de celui qui des cieux nous avertit. Si ceux qui ont repoussé l'appel des anges, des prophètes, de Moïse, ont subi un châtiment, combien plus ceux qui rejettent un message qui est meilleur. Et ça, c'est la première chose, c'est ce premier avertissement qui est là. C'est que si la parole inférieure, lorsqu'elle est rejetée, a eu des conséquences terribles, combien plus ceux qui rejettent l'évangile. Donc, restons fidèles. La deuxième, bon, c'est comme j'ai dit, Christ est supérieur aux anges. Et il y a deux dangers qui existent toujours pour les chrétiens. Le premier, c'est d'abaisser Christ au niveau des anges. Et je ne sais pas si vous savez, mais dans les sectes qui sortent du christianisme, une des choses qui revient très souvent, c'est on va prendre Christ et on va lui enlever un peu de sa dignité pour l'abaisser au niveau des anges. Chez les témoins de Jéhovah, par exemple, on dit que Jésus, c'est l'archange Michel qui a été exalté à la droite du Père après son sacrifice. Mais on ne dit pas qu'il partage la nature de Dieu, mais plutôt c'est un ange. D'accord? Et c'est l'inverse total de ce qui est enseigné ici. Et il y a un danger sérieux à ôter la dignité divine, la déité à Christ. Et donc, il y a cet avertissement. Et de l'autre côté, il faut faire attention de ne pas élever les anges ou même les hommes, les femmes fidèles à la hauteur de Christ. Vous savez, lorsqu'on prie à un ange, okay, si on prie à Saint-Michel ou à un autre, à Gabriel, plutôt que de prier à Christ, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Qu'on croit qu'il vaut mieux consacrer notre temps ou notre prière aux anges qu'à Christ. D'accord? On est en train de les élever à une dignité à une place qu'ils ne méritent pas. Et la même chose est vraie. Ah, je suis désolé pour les saints, pour prier à Marie et la Vierge et ces autres choses. Lorsque nous faisons cela, tacitement, implicitement, nous sommes en train de dire que Christ n'est pas suffisant. Okay? Que Christ ne remplit pas tous nos besoins spirituels ou notre besoin d'un intermédiaire auprès de Dieu. Il faut chercher ailleurs. Et il y a un avertissement pour nous qui est là de ne pas faire cela. Parce que la Bible insiste sur le fait que c'est Christ qui mérite notre vénération, notre adoration. Vous vous souvenez dans, j'ai cité Colossiens 2, mais dans Apocalypse 22, versets 8 et 9, il y a Jean qui reçoit la révélation et puis il dit « Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit « Garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service. » Vous vous souvenez, les anges, ce sont des serviteurs. Et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Jésus ne dit jamais cela. Jésus, quand on se prosterne devant lui, il dit jamais, je suis qu'un simple serviteur, adore Dieu. Lui, il dit, j'accepte cette adoration qui revient à Dieu. Mais les anges ne méritent pas notre adoration, notre vénération, nos prières. Et les hommes non plus, même s'ils ont été bons dans leur vie. Et puis finalement, et ça j'aimerais qu'on termine dessus, c'est cette toute suffisance de Christ. D'accord? C'est pas juste de rester fidèle par crainte, mais Christ suffit pour tout. Nous voyons ici une église qui est persécutée, qui perd ses biens, qui a peut-être perdu des dirigeants fidèles qui étaient là avant eux. Et le message pour eux, c'est de ne pas aller chercher ailleurs. De ne pas chercher dans l'Ancien Testament quelque chose qui serait supérieur, qui comblerait leurs besoins. De ne pas chercher dans les anges ou dans les êtres spirituels une réponse à leurs difficultés. De ne pas chercher à ajouter à Christ, parce que Christ est tout suffisant. Et nous chantons « Nous avons tout pleinement en Jésus », n'est-ce pas? Est-ce que nous le croyons? Ne cherchons pas à améliorer l'évangile de Christ. Si nous croyons que la parole de l'évangile que nous avons reçue est suffisante et que Christ a tout ce qu'il nous faut pour la vie, pour l'espérance et la foi en Christ, bon, nous avons cette confiance de la toute suffisance, non seulement à toute puissance, mais à toute suffisance de Christ. Bon, Christ est supérieur aux anges. Et pour nous, c'est un appel à la fidélité, à mettre Christ à sa juste place, mais surtout à avoir cette confiance qu'en Christ, nous avons tout ce qu'il nous faut.